Donc, je suis Dominique de Fonréau, je suis directrice du musée Eugène Delacroix à Paris et une des commissaires de l'exposition Amour au Louvre-Lens.
Amour, vaste sujet, on revient presque à la genèse de l'amour.
Alors, la genèse de l'amour, c'est un sentiment à la fois fort, puissant et fragile, si on peut dire ainsi, et puis à la fois, si on peut dire aussi, à la fois toujours singulier et toujours universel. Toujours singulier, parce que quand on est amoureux, on a toujours tous l'impression que c'est la première fois et la seule fois, et que les autres, c'est pas pareil, mais bon, on a tous ressenti ça. Et en même temps, universel, parce que je crois qu'on ressent tous cela à un moment ou un autre de notre vie. Donc évidemment, on touche à quelque chose de très profond. Ce qu'on montre ici, c'est aussi moins l'amour lui-même qui se vit d'une certaine manière que la manière dont il a pu être représenté et la manière dont, la façon dont il a été regardé s'est nourrie de ces représentations. Et on a la chance d'avoir vraiment eu des prêts exceptionnels qui permettent de montrer qu'il y a différentes périodes dans la manière dont l'amour est considéré et que finalement, cette manière de considérer l'amour et ses représentations, c'est aussi une manière de considérer l'individu elle-même ou lui-même, que ce soit homme ou femme, par rapport à cet amour. Et il y a finalement l'exposition, elle parle aussi de cette conquête, si on peut dire, de l'autonomie de l'individu par rapport à l'amour, du fait de pouvoir choisir ses amours, ce qui n'est pas toujours aller de soi, évidemment, du fait de pouvoir contenir à la fois ses passions ou ses exigences, qui malheureusement n'est pas toujours aller de soi, qui ne va pas toujours de soi, et qui montre aussi finalement que l'amour profond, celui qui nous porte, c'est celui qui est fondé sur la rencontre. Et ça, que cette rencontre, d'ailleurs, après, il y a différentes interprétations, mais que cette rencontre soit une rencontre plus libertine ou plus impliquée, mais en tout cas fondée sur cette rencontre et cette reconnaissance.
Donc l'amour, a priori, beaucoup ici entre l'homme et la femme ou entre la femme et l'homme, mais on voit aussi clairement que dans l'histoire, il y avait d'autres conceptions.
Absolument. Ça me semble très important à dire. Il va de soi que l'amour homosexuel est absolument fondamental et qu'il est, quand il n'est pas montré ici, c'est parce qu'on n'avait pas de représentation adéquate. Chaque fois que ça a été possible, on les a montrés, évidemment. Et dans la pensée grecque initiale, avant la séparation des êtres que Platon décrit, on peut être à la fois femme-femme, homme-homme ou homme-femme. Et donc la moitié qu'on peut rechercher, ça peut être un homme quand on est un homme, ça peut être une femme quand on est une femme. Et comme on est sur les manières d'aimer, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée et que je me suis beaucoup posée notamment. Ces manières d'aimer ne sont pas fondamentalement différentes. Et la victoire, par exemple, de l'amour romantique dans notre société depuis le 19e siècle, puisque ça perdure, c'est quelque chose qui touche tous les types d'amour, qu'ils soient homosexuels ou hétérosexuels. On est finalement tous empris dans ce désir d'un amour qui nous porterait au-delà de lui-même, au-delà de nous-mêmes et dans lequel on pourrait se fondre. Qui est magnifiquement représenté notamment par la très belle sculpture de Camille Claudel, La Valse, qui est vraiment une des très belles œuvres de cette section présentée dans l'exposition.
À partir de quand, dans la peinture française par exemple, on voit apparaître l'amour en tant que sujet ?
L'amour en tant que sujet, il faut attendre vraiment cette reconnaissance de l'individu. Donc je dirais l'amour en tant que sujet, c'est vraiment à la fois alors, dans la peinture, dans les livres, donc par les enluminures et dans la tapisserie. Je dirais que c'est vraiment au moment du 15e siècle, au moment de ses premiers romans courtois, donc 14e, 15e siècle, c'est à peu près dans ces éléments-là, où l'amour devient un véritable sujet. Mais l'amour devient un des grands sujets de représentation au 17e siècle notamment, avec, et c'est un peu paradoxal parce que Louis XIV, c'est aussi le roi de la guerre et le roi des conquêtes, on le sait bien, mais c'est aussi le roi des îles enchantées, des menus plaisirs et aussi de ces fêtes dédiées à l'amour. C'est intéressant de voir que tout ça n'est pas du tout univoque, qu'on peut être à la fois le roi de la conquête et on peut être aussi le roi aussi qui célèbre cet amour. Et ça me frappe beaucoup, on en parlait tout à l'heure avec Zeev Gourarié, qui a penser cette exposition et qui m'a invité à y participer. C'est intéressant de se dire que au XVIIe siècle, les histoires d'amour se racontent par des femmes. Je ne sais pas, Madame de Scudéry, Madame de Lafayette, par exemple, Madame de Sévigné aussi, et se racontent aussi par des hommes. Et je pense jamais sans émotion à Jean Racine, qui, dans Bérénice, par exemple, qui n'est dédié qu'à l'amour. Bérénice, c'est une tragédie dans laquelle il n'y a qu'une histoire d'amour. Dans la dernière long monologue de Titus à la toute fin, c'est Titus, un homme, qui dit son amour profond pour Bérénice, auquel il doit renoncer. Donc il y a vraiment, à ce moment-là, quelque chose qui se fonde sur l'amour comme puissance et l'amour comme rencontre, enfin comme quelque chose qui unit deux individus souverains, si je peux dire comme ça.
Est-ce qu'il y a des moments révolutionnaires dans la représentation de l'amour ? Et est-ce que la Révolution française, par exemple, a apporté une certaine contribution ou pas du tout ?
Je dirais non. Alors oui pour la première question, pour l'évolution, et un peu non pour la Révolution française, pour être plus précise, pardon. Révolution, oui, je pense que par exemple, ce qui se passe au XVIIIe siècle avec des enjeux de représentation fondés sur le libertinage comme action, mais aussi fondés sur une philosophie qui promeuve le libertinage aussi par une idée de pleine possession de l'individu de ses moyens hein, et aussi de dissociation par rapport à la divinité, c'est une véritable révolution. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien, on l'évoquait, que le XVIIIe siècle reste toujours aujourd'hui comme une sorte de modèle. Quand on s'y réfère, que ce soit en 68, que ce soit plus récemment, on se réfère toujours à cet élément-là. Donc oui, pour cette révolution. Non pour la Révolution française, qui malheureusement, si je peux le dire en tant que femme, est plutôt assez conservatrice et assez patrimoniale, au sens premier du terme. Finalement, la Révolution française ramène, après quelques exemples fameux, ramène une société très patriarcale. Après, une fois que la Révolution est achevée, après le Consulat, avec l'Empire, c'est vraiment, et le Code Napoléon le dit bien, on ramène quelque chose de beaucoup plus patriarcal que ce qui se passait au XVIIIe siècle. Donc la Révolution n'est pas révolutionnaire de ce point de vue-là. Elle ne l'est pas, sans doute, parce que la Révolution française, qui est une révolution bourgeoise, comme on le sait tous, c'est pas une révolution populaire, remet en jeu quelque chose d'assez fondamental, c'est-à-dire le respect de la préservation des acquis et qui oblige du coup à de nouveau une préservation de la lignée. Et donc d'une certaine manière, la femme, bien sûr, à ce moment-là, peut choisir son époux beaucoup plus facilement, elle peut faire un mariage d'amour beaucoup plus facilement, mais une fois qu'elle l'a fait, il vaut mieux qu'elle le fasse dans son milieu, sinon il ne sera pas autorisé, mais une fois qu'il est fait, il faut qu'elle s'y cantonne. Il n'est pas question qu'elle aille voir à l'heure pour les mêmes raisons, moins des raisons morales à ce moment-là que des raisons vraiment patriarcales et patrimoniales. Il faut qu'on soit sûr que la fortune soit transmise. Donc la Révolution française n'est pas révolutionnaire, malheureusement.
Et donc la bourgeoisie, qui avait peut-être aussi les moyens d'accompagner les artistes, voire de commander aux artistes, elle avait aussi un rapport assez net avec la religion qui gardait un certain cap à l'époque.
Oui, qui gardait un certain cap. Le 19e est évidemment un siècle de renouveau, des ordres ecclésiastiques, ça c'est tout à fait vrai. Mais c'est aussi vraiment, et surtout peut-être, les enjeux romantiques avec cette espèce de, dans lequel on est toujours d'ailleurs, d'idéal amoureux, qui est celui ou celle qui correspond complètement à notre idéal et pour lequel on est prêt à se fondre, dans lequel on est prêt à se fondre, dans lequel on est prêt à s'oublier soi-même. Et c'est un modèle qui est toujours très vivant aujourd'hui. Hein. Regardez les de fait qu'on montre à nos enfants, ils finissent par ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants, comme si finalement toute l'histoire importante se passait avant le mariage, mais une fois qu'ils étaient mariés, ils étaient fondus dans un même ensemble et plus rien ne se passait. Et on le sait bien, hein, je ne suis pas psychanalyste ni sociologue, mais on sait bien les dangers hein, qu'applique une telle fusion, une telle complexité. Et je pense que c'est important, et c'est ce que montre l'exposition, elle montre que c'est une construction mentale, que ce n'est pas quelque chose qui va de soi. Et donc ça permet des questionnements, qui me semblent aussi assez forts pour notre temps d'aujourd'hui.
Donc cette exposition « Amour », elle couvre pratiquement jusqu'à l'ère contemporaine avec notamment Niki de Saint-Phalle.
Exactement, avec Niki de Saint-Phalle et avec quelque chose de... Niki de Saint-Phalle, c'est une grande créatrice et qui, dans le rapport à la chose amoureuse, on le sait, est dans la tension, hein, puisque, vous le savez, elle a à la fois vécu des choses très douloureuses, de viol, d'inceste dans sa jeunesse, mais elle a aussi transcendé ces éléments-là dans son amour avec Jean Tinguely. Et on a la chance de présenter une œuvre absolument splendide, cette Vénus, qui est une sorte de mère de toutes les nanas de Niki de Saint-Phalle et qui est absolument remarquable. Et l'exposition se clôt vraiment par, d'une certaine manière, notre jeunesse contemporaine pour beaucoup, puisque on présente et on entend des chansons d'amour des années 1960-1970, de Michel Delpech, de Barbara, de Dalida. Et donc, c'est aussi une manière, comme les films d'ailleurs qu'on projette dans l'exposition, de montrer que cette histoire est une histoire qui se compose avec le grand art, mais que les arts populaires, auxquels moi je tiens beaucoup, se sont aussi construits dans la même histoire.
Donc par rapport à cette exposition, est-ce qu'il y aura des temps forts où on pourra peut-être mieux comprendre, aborder certains points?
Absolument. Alors il y a toute une très belle programmation. Hein. Je ne la connais pas par cœur, je vous engage à aller regarder sur le site du musée du Louvre-Lens, mais avec des grands moments. On a notamment un certain nombre de scansions sur à la fois des enjeux de représentation, du désir, du plaisir, avec des conférences. On aura des débats aussi organisés pour les adolescents. Moi, j'encourage beaucoup les jeunes gens, pas seulement, mais je pense que c'est important que des jeunes gens et des jeunes filles de 14, 15, 16, 17 ans, 18 ans viennent dans cette exposition justement. Et il y aura des débats qui seront organisés pour eux. Il y aura un grand bal, je crois que c'est le 1er décembre, le bal de l'amour, qui sera aussi une occasion de rappeler combien la danse est quelque chose de fondamental, à la fois dans la rencontre amoureuse, mais aussi dans la gestuelle amoureuse. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses, des concerts, enfin j'oublie des choses, mais il y a toute une programmation. Je vous engage à regarder sur le site du musée.